rencontre.
À la rencontre.
À la rencontre.
De la biodiversité. De la biodiversité. De la biodiversité.
Durant de nombreuses années, les questions écologiques et environnementales ont trop souvent été mises de côté. Aujourd'hui, ces problématiques sont de nouveau au cœur de nombreux débats, et le terme de biodiversité revient régulièrement. Ce qui était autrefois un enjeu technique et scientifique fait désormais figure d'enjeux et d'arguments politiques, mais aussi social et économique. Biodiversité, un mot bien souvent utilisé à tort et à travers, qui est devenu aussi vague et ambigu qu'il n'a été repris au travers de nombreux discours.
Au travers d'une émission de radio de 4 épisodes autour de témoignages récoltés dans la rue, nous redéfinirons le sens premier de ce mot, biodiversité, nous ferons le constat de son état actuel et nous tenterons de regarder vers l'avenir. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous trois professionnels qui nous feront part de leurs connaissances et de leurs expériences.
Ok, donc je m'appelle Mickaël Monvoisin, je suis correspondant environnement pour l'agence bretonne de l'Office national des forêts. Voilà, mon travail est de travailler sur la prise en compte de la biodiversité et l'application de la politique environnementale de l'ONF à l'échelle régionale.
Denis Robert, je travaille à l'Office français de la biodiversité en tant que technicien connaissance et mon rôle est d'encadrer des protocoles de recueil de données sur le terrain.
Et Sébastien Gervais, donc je suis chargé d'études à la LPO Bretagne. Mon rôle justement est de mener des suivis, des études, que ce soit ornithologiques mais naturalistes de manière un peu plus globale, et puis en parallèle aussi de mener des actions de sensibilisation. On aura certainement, je pense, l'occasion d'en parler, parce que c'est un peu le but de l'émission aujourd'hui, c'est de parler de la biodiversité, donc de sensibiliser.
Merci.
Donc tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous redéfinir simplement ce qu'est la biodiversité ?
La biodiversité, c'est dans le mot, hein, c'est la diversité de la vie. Donc c'est un vaste sujet. Moi, ce que je pense important quand même, c'est de le replacer dans notre contexte à nous et de le voir dans une dimension locale. Parce que ce terme de biodiversité, pendant longtemps, en tout cas moi j'ai été élevé comme mes collègues ici, on a je pense le même âge, avec les émissions de Cousteau, avec les émissions de Nicolas Hulot, où finalement la nature c'était toujours des reportages qui se situaient ailleurs, en Afrique, en forêt tropicale, équatoriale. Et finalement, pour la plupart des gens, dans la culture populaire, la nature... c'est les grands animaux, c'est les grands mammifères, c'est l'océan, c'est en oubliant que dans son jardin, on a toute une quantité d'animaux qui vivent, de plantes qui vivent là, qui vivent en interaction. Et c'est ça notre rôle, notre défi aujourd'hui, c'est qu'on a commencé déjà depuis un petit moment, mais c'est de faire prendre conscience de ça, de l'existence de cette biodiversité autour de nous.
Pour compléter le propos de Sébastien, donc la biodiversité et la diversité du vivant. Dans le grand public, on entend souvent ce terme au sens de diversité des espèces. Il est à prendre en compte que la notion de biodiversité prend en réalité trois catégories. Celle de la diversité des espèces dont on vient de parler, mais aussi la diversité des milieux. C'est-à-dire qu'entre une zone où on aurait que de la forêt et une zone où on va avoir de la forêt, de la lande... des mares, on va avoir une différence de biodiversité. Et que la troisième biodiversité à prendre en compte est ce qu'on appelle la biodiversité génétique. C'est-à-dire, au sein d'une population, est-ce que tous les individus ont un patrimoine génétique proche ou pas ? Si on prend un champ de maïs d'agriculture intensive, quasiment tous les épis de maïs ont le même patrimoine génétique. Donc la diversité génétique au sein de cette espèce est très faible. Ce qui peut poser des soucis en cas de pathologie, par exemple, parce qu'ils vont tous ramasser, si je puis dire, la maladie de la même manière. Alors que dans une population d'une espèce vivante bien établie, normalement, on doit avoir une diversité génétique d'individus qui leur permettent de répondre chacun aux perturbations de l'environnement.
Bon, pas grand-chose à rajouter, mais c'est vrai que... Moi, je suis un peu agacé que ce terme biodiversité, au début, je l'ai porté... comme un étendard, et aujourd'hui, il est repris de façon très marketing, et ça me gêne beaucoup, le terme. Effectivement, là, on voit bien, c'est très, très complexe. Il faut intégrer dans le terme de biodiversité tout ce qui est fonctionnalité des milieux, fonction des milieux, mais les notions de résilience, de résistance, c'est important. Donc, c'est vrai que c'est un terme, je pense qu'on pourra en écrire presque un bouquin sur le terme. Donc, mais il est souvent utilisé de manière un peu simpliste. C'est ce qui est un peu dangereux aujourd'hui.
Peut-être aussi, juste pour en définir les contours, on confond parfois biodiversité et naturalité, qui sont deux choses différentes. La biodiversité étant le fait d'avoir le plus possible d'espèces, enfin l'objectif de biodiversité étant le plus possible d'espèces, l'objectif de naturalité étant d'avoir un milieu le plus naturel possible. Donc il y a des endroits où ces deux termes se rejoignent, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'une zone très aménagée, avec des petits milieux, va avoir beaucoup de biodiversité, mais ne va pas forcément être naturelle. Et à l'inverse, une grande zone qu'on va laisser complètement naturelle ne va pas forcément avoir autant de biodiversité qu'une zone très jardinée, je veux dire.
Je dois rajouter quelque chose. Non, bah, je pense que là, on a déjà bâti une définition. Les auditeurs, vous êtes capables de refaire une définition à partir de tout ce qu'on vient de dire, bah, bravo, parce que c'est vrai que c'est très très vaste, comme on le disait au départ. Et je pense que c'est important justement qu'on en parle en détail, parce qu'en effet, comme tu disais, Michael, c'est un mot qui est repris, on en parle, comme on parlait à une époque du développement durable, et qui est un peu galvaudé aussi parfois. Il y a le greenwashing, on en pourra peut-être parler aussi. Enfin bref, c'est vrai que c'est un sujet qui mérite toute notre attention et qu'on en parle en détail.
Bah, merci. Justement, on va commencer par détailler l'aspect de son état, en fait. Quel est l'état de la biodiversité? Et du coup, on va vous passer le premier témoignage qui parle de cet état.
Pour moi, elle est majeure. C'est la crise majeure qui est fondatrice de tout ce qui va suivre. C'est pas d'aujourd'hui. On réagit que aujourd'hui, mais ça, c'est l'humain. J'attends d'avoir une bonne fessée pour réagir. Moi, depuis l'âge de 20 ans, je suis dans l'écologie, mais pas de façon politique. Je suis à titre personnel, notamment pour les animaux. Mais bon, tout fait partie, animaux, végétaux et minéraux, tout ça c'est un ensemble, et l'humain aussi. Ce que je pense, c'est qu'on est arrivé, on est devant un mur. On dit toujours qu'on va dans le mur, mais là on est devant. Hein. Tous les signaux sont au rouge, donc sans vouloir paniquer, on va être obligé de changer, de toute façon. Obligé.
Non, bah là, c'est un discours éclairé, on voit que c'est quelqu'un qui est un peu investi. Ouais, effectivement, je pense qu'on est dans le mur déjà. C'est pas là, on n'est pas devant là, on y est. On a des tonnes d'indicateurs qui nous alertent. Effectivement, il est grand temps d'agir et de prendre en compte. On parlait de fessée. Hein, la fessée, on l'a eu, hein, on l'a depuis longtemps. Hein, on a une marée noire tous les 10 ans, une tempête tous les ans. Il y a plein d'indicateurs du mauvais fonctionnement des milieux naturels. Je pense qu'effectivement, il est grand temps d'agir. Je trouve qu'on a. On en parle, je suis content qu'on soit invité à une émission de radio pour en parler, c'est positif. On a pas mal parlé au début du confinement, moi j'ai trouvé intéressant le début du confinement, alors le premier confinement, où, on a fait quand même le lien entre cette crise sanitaire, cette crise économique et la biodiversité. J'étais content de voir aux 20h sur des chaînes de grande envergure de témoignages scientifiques qui faisaient le lien avec la biodiversité. Je trouve qu'on fait beaucoup moins dans cette deuxième crise. Peut-être l'approche de Noël, mais d'autres échéances et d'autres priorités. Mais c'est clair que les enjeux de biodiversité, c'est pas juste un petit plaisir de naturaliste pour avoir un maximum d'espèces et se faire plaisir en les regardant la jumelle. Ça peut avoir des conséquences très, très graves. Et là, aujourd'hui, on est face à un exemple qui est criant et on ne sait pas comment en sortir.
Je peux illustrer ton propos, Michael, par rapport justement à la manière dont la nature remplit le vide. Cette année, on m'a missionné à la ville de Saint-Malo m'a demandé de faire un inventaire sur le Grand B, juste devant les remparts de Saint-Malo, pour recenser les populations de goélands, parce que justement, avec le confinement, les gens ne sortaient plus. Et bah, les goélands, en quelques semaines, ils ont colonisé en fait l'ensemble de l'îlot. Le souci, c'est que vu que l'ouverture, enfin la fin du confinement était programmée, je crois, je ne sais plus la date, mais c'est fin début mai, je ne sais plus. On était encore en pleine période de reproduction, et là, ça allait poser vraiment un problème parce qu'il y avait des nids qui étaient à 1, 2 mètres, même pas des sentiers. Tout ça pour dire que oui, on voit par cet exemple la dualité qu'il peut y avoir parfois entre l'activité humaine, enfin la confrontation qu'il y a entre les activités humaines, même simplement la promenade, et puis la nature, et les conséquences que ça peut avoir sur nos comportements. Donc en tout cas, moi ce que je trouve réjouissant, à travers cet exemple, c'est de voir que des municipalités, des élus, des politiques d'une manière générale, commencent à prendre conscience de ça, parce que c'est eux qui ont fait cette demande. Donc ils avaient conscience qu'il y avait quand même un problème par rapport à ça. Le fait que le confinement, ça allait avoir justement un impact sur la nature. Et puis autre exemple, avec d'autres entreprises qui ont monté des petites séries d'émissions où on s'enregistrait avec son téléphone pour parler nature. On peut citer des marques ? Ouais. Bah, le groupe Yves Rocher, par exemple, avec qui on travaille depuis longtemps, nous a demandé, à travers une opération qui s'appelait... j'ai oublié son nom. Est-ce que tu te souviens ? Non, c'est pas We Are Change, ça c'est une autre. C'est Confiné mais aux aguets. Voilà, c'était le titre en fait, c'était Confiné mais aux aguets. Et chacun pouvait, alors à son niveau, il y avait aussi des choses sur les produits de beauté. Hein. Moi, à mon niveau, j'ai parlé des oiseaux. Et puis d'autres parlaient de littérature, naturaliste, notamment Thierry Alberto. Et donc c'était très intéressant. En tout cas, c'était l'occasion, je trouve, en effet. Pour beaucoup, et je rejoins Michael, par rapport à ce premier confinement, parce que c'était nouveau d'ailleurs, c'était complètement nouveau pour les gens. On est enfermés chez nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien là, c'était d'avoir un regard différent sur ce qui nous entoure. C'était, je pense, une bonne initiative de lancer cette opération. Entre autres, il y en a eu plein d'autres. Hein, mais...
Quelque chose que je trouve intéressant dans le témoignage, et qui est la manière que nous avons dans nos sociétés d'aborder le problème de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on l'envisage avant tout, en général, comme un problème pour l'humain. On parle beaucoup actuellement de problématiques liées à la biodiversité. On prend l'exemple que 70% des médicaments anticancéreux, par exemple, je pense, proviennent de plantes naturelles. Et on dit toujours, si la biodiversité baisse, eh ben, c'est autant de ressources médicamenteuses qu'on risque de perdre. Ça illustre notre biais cognitif, si je puis dire. On envisage la biodiversité en tant que survie de notre espèce. Ce qui est à la fois une erreur de perception, puisqu'on pourrait imaginer protéger la nature pour elle-même, mais ce qui à la fois est peut-être le seul levier pour qu'à un moment, nos sociétés prennent mesure de l'importance et décident de changer pour limiter cette destruction.
On voit bien qu'aujourd'hui, on place la biodiversité comme une réponse à des problèmes, alors qu'il aurait fallu l'intégrer dans tous nos fonctionnements. Et aujourd'hui, on sent que les mentalités changent, mais c'est un peu anecdotique. Mais combien de fois, quand on travaille sur des projets d'aménagement du territoire, hein, on parle de contraintes environnementales quand on parle de la réglementation. Ce n'est pas une contrainte environnementale, au contraire, c'est une richesse, c'est un contexte, mais ce n'est pas une contrainte. Et tout le temps, l'environnement, pendant des années, hein, pendant les 30 dernières années, c'était conçu comme un problème. Il fallait le prendre en compte. Oh là là, c'est compliqué, il y a une espèce protégée, comment on va faire ? Ce serait mieux si elle était chez le voisin. Comment faire compenser ? Ça va coûter encore cher. Alors qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il fallait intégrer ces enjeux-là. Et quand les sociétés ou les structures qui ont intégré la biodiversité, aujourd'hui, au contraire, la valorisent et se rendent compte que ça fonctionne beaucoup mieux.
Bah, merci à vous tous. On va passer à la deuxième piste.
On voit qu'il y a un bouleversement, ça se voit au quotidien, enfin, il n'y a pas besoin de... Il suffit de regarder, d'ouvrir les yeux, il y a moins d'oiseaux.
Donc ce témoignage, en fait, il reflète un peu... Les gens se rendent compte que la biodiversité diminue, qu'il y a de moins en moins d'espèces. Ça, c'est un fait. Est-ce que vous, en tant que professionnel, justement, vous pouvez vraiment constater qu'il y a une baisse de la diminution, une baisse de la biodiversité, pardon?
C'est net, hein. C'est même assez troublant. Moi, je participe à un programme qui s'appelle le STOC, suivi temporel des oiseaux communs. C'est un protocole qui est depuis une quarantaine d'années. On passe tous les ans de passage, au début de printemps, fin de printemps. Et là, à l'échelle, moi je suis à l'ONF depuis 20 ans, à l'échelle de 20 ans, c'est flagrant. Il y a des espèces que j'entends quasiment plus. La locustelle, la tourterelle des bois, ces espèces que je captais sur mes points d'écoute. Alors le pouvreuil, ouais. Même les bruants, le pouillofitis, enfin, voilà, toutes ces espèces-là qu'on entendait en fonction des différents milieux, mais qu'on entendait assez fréquemment, aujourd'hui, je ne les entends quasiment pas. Cocher une tourterelle des bois aujourd'hui sur mes 10 points d'écoute, j'en ai une. Il y a 20 ans, j'en avais 15. Quoi. C'est vraiment puis une espèce qu'en plus qu'on entend de loin, qui n'est pas compliquée à reconnaître. C'est, ouais, on le sent. Et c'est vraiment affolant de voir qu'à l'échelle d'une demi-carrière professionnelle, on a effectivement des impacts forts, quoi. Des émissions fortes.
Hein. C'est bien que tu parles des stocks, parce que justement, comme tu l'as dit, le stock, ça veut dire le suivi temporel des oiseaux communs. Pendant longtemps, quand on parlait de biodiversité, on parlait d'espèces rares, patrimoniales, spectaculaires, qui, là, à ce moment-là, avaient toute notre attention. Et finalement, le moineau, on s'en foutait un peu, quoi.
73% de diminution à Paris, le moineau.
Oui. Et beaucoup d'espèces communes comme ça sont dans les mêmes proportions de diminution en l'espace de 10 ans. Et c'est vrai qu'on l'observe aussi en paysage agricole, enfin en milieu agricole, surtout ces dernières années avec la louette des champs et tous ces oiseaux qui sont liés habituellement au bocage. Parce que on a quand même beaucoup d'espèces qui se sont adaptées à l'activité humaine, notamment au bocage. Et en fait, le grand tournant a lieu dans les années 50. Donc là, c'est un vaste débat, hein, avec beaucoup de passion. Mais en tout cas, les chiffres sont là. Les chiffres, on ne peut pas les contester. Et comme tu le dis, Michael, les exemples que tu as donnés, c'est des exemples qu'on a sur l'ensemble du territoire français et au-delà, parce que le stock, ce n'est pas que français, hein, c'est international. Une population d'oiseaux, elle s'étudie sur l'ensemble de son aire de répartition et pas seulement à un endroit précis. Alors c'est vrai que le reportage, l'interview de la personne là, nous disait « oui, on voit moins d'oiseaux ». Voilà, le stock est une réponse à ça parce que ça reste très subjectif, on voit moins d'oiseaux. Combien de gens nous disent ça ? Oui, je vois plus tel ou tel oiseau. Bon, en même temps, on vieillit, on a la vue qui baisse, ça, c'est vrai que on perd aussi l'audition. Donc il faut pas trop s'arrêter à ça parce que c'est vrai qu'on l'entend tous les jours, hein. Oui, je vois moins d'oiseaux. Après, il y a des évolutions, des fluctuations qui sont aussi annuelles. C'est sûr que les mésanges, on va bien les voir l'hiver quand on nourrit les oiseaux. Et puis au printemps, elles retournent se reproduire, pas très loin de la maison sans doute, mais on ne va pas en voir des masses, des grandes quantités. Donc tout ça, ça reste quand même très subjectif. Par contre, justement, pour répondre concrètement à cette question, il y a des protocoles qui ont été lancés déjà depuis longtemps et qui, eux, par contre, sont infaillibles et nous montrent en effet des populations qui sont en chute libre. Pour certaines espèces, c'est jusqu'à, oui, comme tu le disais, moins 70%, 73%. Donc là, c'est vraiment inquiétant. C'est du concret.
Et là, on parle des oiseaux. Est-ce que toi, Denis, qui travaille sur les cours d'eau, tu constates aussi cette perte de biodiversité dans les cours d'eau ?
Pour ce qui est des cours d'eau, un exemple qui est assez frappant, c'est celui de l'écrevisse à pied blanc, qui est une espèce très sensible à toutes les perturbations, qu'elles soient physiques ou chimiques, de son milieu, et dont on perd chaque année un peu plus des populations. Une fois qu'une population est perdue, on la retrouve jamais. C'est un exemple assez frappant par rapport au cours d'eau de perte d'une espèce comme ça, dont le territoire se rétrécit au fur et à mesure. Ceci lié à plein de facteurs.
J'imagine qu'on peut parler aussi de la mulette perlière, non ?
Oui, tout à fait. J'irai moins de données en tête, mais elle en fait partie.
Ouais. C'est une petite moule d'eau douce.
Puis peut-être compléter juste avec deux, trois chiffres de l'Observatoire national de la biodiversité. On a de mémoire 26% des espèces en France qui sont considérées comme menacées. On parlait des oiseaux. En milieu forestier, ils s'en sortent un peu mieux, mais dans les milieux urbains et en milieu agricole, on est à au moins 30%, je crois, depuis les années 80. On parle souvent des coraux, on est à au moins 30% pour les coraux dont la France est responsable, on va dire. On peut parler des chauves-souris, je crois qu'on est à au moins 30% en 10 ans, en effectif.
Ça va même jusqu'à 80% de diminution pour certaines espèces de chauves-souris, comme la grande noctule, qui elle, alors du coup, c'est un autre problème et qui souffre de l'impact éolien, essentiellement. Effectivement, les oiseaux en forêt, on est sur un rythme d'émission de moins 3%, ce qui est assez peu par rapport au reste. Mais justement, les oiseaux qui viennent en forêt viennent aussi d'ailleurs. On a des oiseaux migrateurs, ils traversent d'autres milieux qui, eux, sont en bonne santé. Donc forcément, la baisse va continuer. Il y a juste quelques espèces qui s'en sortent bien, ce qu'on appelle les oiseaux un peu généralistes, donc les tourneaux, le chouca des tours aujourd'hui là, qui progresse, les corneilles. Et voilà, ça crée des déséquilibres ailleurs et ça crée aussi des déséquilibres par rapport aux activités humaines parce qu'eux profitent très bien des activités humaines, notamment les problèmes avec l'agriculture, les décharges, les centres de gestion des déchets avec les... Bah, tu parlais des goélands tout à l'heure, ça pose un souci, hein, quand on a des milliers de goélands sur des stations d'épuration, c'est un peu compliqué à gérer.
Oui, puis ces quelques exemples, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que finalement, beaucoup vont dire, bah non, finalement, vous voyez, la nature se porte bien. On a aussi des espèces qui ont une évolution de leur répartition géographique. On voit de plus en plus certains hérons, par exemple, le héron garde-bœuf qu'on voit de plus en plus.
Il y a plein juste à côté.
Hein. Ouais, il y en a de plus en plus. Mais voilà, ça, c'est une évolution naturelle. Il y a des espèces qui s'en sortent. On pourrait parler du faucon pèlerin. Là, il y a le suivi 2020 vient de sortir. Dans les années 90, ça se comptait sur les doigts d'une main au niveau Bretagne. Le nombre de couples de pèlerins, aujourd'hui on est rendu à 100. Bon, alors, c'est vrai qu'on peut donner ces exemples-là en se disant oui, non, c'est... oui, sauf que là, dans le cas du faucon pèlerin, c'est parce qu'il y a eu tout un ensemble d'actions, de mesures qui ont été menées, et puis le fait justement d'arrêter l'utilisation de certains produits phytosanitaires fait que cette population a pu retrouver une situation normale, mais c'est malheureusement pas le cas pour la grande majorité des espèces. Souvent, d'ailleurs, des espèces plutôt communes à la base.
Mais je pense que l'enjeu, il est là aujourd'hui. Hein. C'est vraiment la nature ordinaire. On a, depuis la protection de la nature en France, ça remonte aux années 70. Aujourd'hui, on voit les effets. Hein, quand on a investi lourd sur certaines espèces, comme la loutre, comme les grands rapaces, hein, le gypaète, les vautours, on a des résultats positifs. Donc toutes les espèces d'oiseaux ne sont pas en diminution. Mais on reste souvent sur des spots. Quoi. Par la nature ordinaire, les oiseaux communs, eux, par contre, sont plutôt communs. Hein. Même quand on parle des mésanges, des rouges-gorges, des pinsons, c'est assez catastrophique. Hein. Mais je suis content aussi de voir qu'on a tout le bagage réglementaire en France hein, pour agir. On voit de plus en plus de procès, de peines lourdes hein, à des braconneurs, hein, pour le braconnage d'ortolans, de pinsons, de verdiers, avec des peines qui vont à plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende, alors qu'avant, c'était un rappel à la loi, pratiquement. Quoi. Donc, les choses évoluent. Hein. Et c'est vrai que la perception, elle est importante. Moi, je suis content que les stocks, effectivement, on a un recul de 40 ans. Il y a très, très peu d'études qui ont 40 ans de recul. Donc là, on est sur du factuel. Parce qu'au début du confinement, les gens me disent « Oh là là, il y a plein d'oiseaux ». Je dis « Non, il n'y a pas plein d'oiseaux. Il y a autant d'oiseaux qu'avant, c'est juste que là, tu as le temps de regarder par la fenêtre.
Tu sais pas quoi faire, et voilà. Ouais.
Donc tu les vois, donc il y a quand même, on sent qu'il y a de la ressource, il y a quand même moyen, mais il n'y a pas plein d'oiseaux. Mais ouais, on me parle souvent, on me dit, oh, il n'y a plus de salamandre. Moi, je suis un peu plus spécialisé sur les amphibiens, on me dit, oh, il n'y a pas de salamandre. Je dis, bah, si, il y a des salamandres, mais la salamandre, pour l'avoir, il faut aller le soir, à l'automne, la nuit, quand il pleut. C'est sûr que ça limite un peu. Hein. À côté de l'amour et dans le pré, moi, je pèse pas lourd hein, quand, pour avoir du monde avec moi, pour aller chercher les salamandres la nuit. Quoi. Mais il y en a. Mais moi, je m'inquiète aussi pour les amphibiens, parce qu'il y a d'autres événements. Alors, on est moins sur la biodiversité, mais les changements globaux, les changements climatiques, c'est important. Moi, les amphibiens, je m'inquiète. Hein.
Et puis, les amphibiens, ça ne chante pas, c'est pas visible, non, comme le sont les oiseaux. Hein. Donc, c'est vrai qu'ils sont un peu inaperçus.
Les oiseaux, c'est sympa, ça attire la sympathie des gens. Quand on bosse sur les rampants et les gluants, c'est vraiment... Il y a beau avoir des contes de princesses, et on peut embrasser un crapaud pour voir si ça fonctionne, mais c'est vrai que... C'est un peu moins bankable quoi, quand même. Donc effectivement, ça touche. Par contre, un amphibien, lui, 4 mois de sécheresse tous les ans, là, depuis quelques années, ça compte. Hein.
Ouais, exactement.
Ça compte à la fois sur. Parce qu'il n'y a pas d'eau, donc il ne peut pas se reproduire, mais ça compte aussi sur le développement de maladies, sur plein d'autres effets. Donc oui, là, moi, je pense vraiment qu'il y a un.
Faut être inquiet. Là, on vient d'aborder la biodiversité sous l'angle des espèces. Mais comme on le disait, on pourrait parler de la biodiversité des milieux naturels. On sait que, je crois de mémoire, on est à 87% de zones humides qu'on a perdues. Un autre exemple très facile à comprendre, c'est celui des glaciers. Avec le réchauffement climatique et la température qui s'élève, et ben on a de moins en moins de glaciers. Et donc c'est un milieu naturel que l'on est en train de perdre. Donc on a aussi toute une perte de biodiversité, pas forcément visible, mais qui est à l'échelle des milieux. Et ce sont bien ces milieux qui accueillent les espèces dont on vient de parler.
En France, on artificialise, on urbanise, hein, si vous voulez, via des algues, des routes, des parkings, des supermarchés. L'équivalent, alors c'est un peu variable, là on est un peu en décroissance, donc ça ralentit, mais c'est l'équivalent de la surface d'un département tous les 7 à 10 ans. Voilà. 7 à 10 ans, on perd en milieu naturel l'équivalent d'un département. C'est énorme. La Bretagne, on a 4 départements. Hein. Ça veut dire que dans 40 ans, globalement, si on concentre toute l'urbanisation en France sur la Bretagne, dans 40 ans, on n'a que des routes. On n'a que du goudron.
Plus, cette urbanisation crée une fracturation des milieux. et une déconnexion, une déconnexion des milieux les uns par rapport à les autres à une échelle beaucoup plus globale.
Oui, et puis alors là, on touche vraiment à un vrai souci, c'est que en plus, on veut, c'est une bonne chose, mais on veut mettre de la naturalité, comme tu disais, dans les villes de plus en plus. Sauf que si on ne veut pas faire de l'étalement urbain, on est obligé de concentrer en ville. Donc là, on se retrouve vraiment dans un vrai problème qui est difficile de résoudre, où il faut peut-être tout remettre à plat et voir comment on peut concilier ces deux idées, en fait. C'est pas facile.
Ah non, on voit bien, on est à la charnière, là, on est sur des changements de culture, des changements philosophiques, des paradigmes de vie qu'il va falloir vraiment faire évoluer. Et on sait très bien que ça ne va pas se faire sur 5 ans. Hein. Il va falloir éduquer nos enfants, les enfants de nos enfants. C'est un pari sur les 30, 40, 50 prochaines années, mais il faut l'amorcer tout de suite, hein. Je pense vraiment tout de suite. Hein.
On verra dans 50 ans si la crise du Covid a eu un impact sur nos manières de fonctionner à long terme.
Qu'on soit un peu sourd, hein, parce que là, aujourd'hui on parle du Covid, c'est vrai que c'est une crise qui dure longtemps, qui fait quand même quelques milliers de morts, mais qui fait encore beaucoup moins de morts que ce que provoque la pollution atmosphérique par exemple. On ne fait pas trop le biais, je sais que c'est un peu délicat de comparer la misère du monde, mais c'est le cas pourtant. Et aujourd'hui on parle du Covid, mais il n'y a pas si longtemps on a eu la grippe aviaire, la grippe porcine, la vache folle, des crises, on en a, le SRAS, tout ça vient... Des altérations des milieux naturels, et tout vient du trafic d'espèces protégées. Là, on est allé chercher des bestioles en plein milieu des forêts. Et derrière, forcément, avec notre façon de vivre, où en l'espace de 24 heures, on a fait le tour de la planète, en passant par les métros de New York et de Tokyo, c'est clair que ça va très, très vite. Mais à la base, cette année, enfin, le Covid, c'est encore issu de trafic d'espèces protégées, et notamment de chauves-souris de la famille des rhinolophes. Ça va, c'est notre faute. Enfin, clairement, l'humain... responsable.
Voilà, la crise du Covid, on a de la chance que ce soit un virus finalement pas très... C'est pas la peste bubonique, quoi, du Moyen-Âge. On serait tous morts. Comme tu le dis, si on fait le tour du monde en 24 heures, on serait tous morts.
À la rigueur, c'est les crises très mortelles, comme Ebola, pardon, alors je sais pas si c'est un virus, comme la maladie d'Ebola, c'est tellement meurtrier que finalement, elle s'auto-confine parce qu'elle a pas le temps de se distribuer. Mmh. Mais là, le Covid, c'est vrai que... Là, je suis persuadé, moi, qu'en janvier, on a une troisième vague, c'est obligatoire. On ouvre les vannes. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Je vois leur manigance, leur calcul politique. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. Réchauffement climatique, ils mentent avec aisance. C'est Pinocchio pathétique. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Encore combien de temps vont-ils nous mettre la disquette? C'est sur le dos des mêmes qui font leur plus grosse recette. Y'a le sang d'innocents sur les mêmes.
Je suis à bout de souffle. Je vois les fleuves faner. L'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promettre. Se foutre de la morale. Ils n'ont qu'une chose en tête. C'est leur paradis fiscal.
Et le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Le monde est chaud parce qu'ils font le show et nous manipulent
est chaud, le